Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, soyez les bienvenus. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. La Libre Antenne, vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix. Vous nous interpellez sur tous les événements qui vous ont marqué cette semaine. Vous êtes nombreux à souhaiter revenir sur cette forte mobilisation en Guinée, mobilisation de l'opposition contre une éventuelle révision de la Constitution. Certains d'entre vous nous ont appelés pour réagir à cet appel de l'archevêque de Lomé. L'archevêque de Lomé qui veut suspendre la prochaine élection présidentielle prévue théoriquement en février-mars 2020. Donald Trump qui a décidé d'exclure le Cameroun de l'AGOA. Voilà un sujet qui ne laisse pas indifférents quelques auditeurs du côté de Douala et Yaoundé. On parlera de la colère des enseignants de l'école primaire en RDC. Vous avez été nombreux à souhaiter prendre la parole hier après le débat africain exceptionnel d'Alain Focat autour d'Alain, trois chefs d'État, le président tchadien, nigérien et congolais. Ils ont débattu essentiellement de la situation sécuritaire au Sahel. Vous souhaitiez commenter leurs propos, eh bien nous vous donnerons une fois de plus la parole ce matin. On parlera football également avec Liverpool. Liverpool peut-être déjà champion 2020, alors qu'on est à peine à quelques semaines de la fin de l'année 2019. C'est vrai que les prestations de Liverpool sont excellentes cette année. Voilà, autant de sujets qui vous intéressent. RFI est là pour vous donner la parole, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction, et on va justement parler de la Guinée avec ses élections législative qui s'annonce pour le 16 février. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan, bonjour à Nicolas, votre technicien du jour.
Ah, technicien du jour, effectivement, vous êtes bien informé, il s'appelle Nicolas. Je salue toute l'équipe au passage qui m'aide à présenter cette émission. Quelles sont vos questions, Ibrahim ?
Juan, en Guinée, la commission électorale annonce une nouvelle date pour les législatives en février prochain. Quelles sont les garanties que ce scrutin aura bien lieu après avoir tant de fois repoussé ?
Ouais, c'est la question que tout le monde se pose, effectivement. Il faut dire qu'initialement, ces élections étaient prévues en septembre-octobre de l'année dernière. Il a ensuite été question de les organiser en novembre de cette année, puis le 28 décembre. Et finalement, elles auront lieu le 16 février, une date d'ailleurs confirmée cette semaine par décret présidentiel. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Juan, bonjour Ibrahim.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI en Guinée. La date du 16 février sera-t-elle la bonne ?
Alors, il y a plusieurs raisons d'en douter. Hein. D'abord, parce que la date, il faut qu'elle soit acceptée par tous. Souvenez-vous, lorsque le président de la CENI avait annoncé celle du 28 décembre, eh bien, les commissaires issus de l'opposition l'avaient accusé d'être à la solde du pouvoir. Certains opposants ont même allé jusqu'à demander sa démission. Or, ce qui frappe dans l'annonce du 16 février, c'est qu'elle a été prise à l'unanimité par la CENI. Mais attention, ça ne signifie pas forcément que les partis sont sur la même ligne que leur commissaire.
Oui. Alors justement, avant-hier, les deux principaux partis d'opposition ont boycotté la dernière réunion du comité interpartite, qui est un mécanisme d'information sur le processus électoral. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors, c'est pas encore très clair, mais au sein de l'UFR, on dit que les partis n'ont pas été consultés officiellement sur le chronogramme, ce qui se faisait traditionnellement, ce à quoi la CENI répond que rien ne l'y oblige. Alors, certains s'étonnent aussi que le président convoque un corps électoral qui n'est pas encore connu, puisque la révision du fichier, elle ne devrait commencer que la semaine prochaine, et d'autres leur répondent qu'il s'agit du corps électoral potentiel. Bref, on se perd un peu dans les détails sur la forme et pas vraiment sur le fond. Alors que la question du fichier électoral, elle est vraiment centrale, hein, puisque l'audit qui a été mené l'an dernier, elle avait identifié plus d'1,5 million d'électeurs sans empreinte. Mais bon, voilà, il faut dire que les partis sont actuellement concentrés sur la crise politique qui secoue le pays. Hier encore, la manifestation du FNDC a débouché sur des morts. Et là, tous les acteurs sont d'accord pour dire que c'est en fait la grande inconnue de cette équation. C'est-à-dire que la CENI fait un travail technique, elle fixe les dates sur un chronogramme, mais elle ne maîtrise pas l'environnement politique. Et c'est la principale raison pour laquelle il convient de rester encore prudent sur cette nouvelle date.
Sur la date du 16 février 2020. Ibrahim, vous aviez une autre question ?
Oui, tout à fait, Juan. Si le référendum et l'élection présidentielle sont confirmés, la Guinée a-t-elle le moyen d'organiser trois élections en un an ?
Et quand vous parlez de référendum, vous faites référence évidemment à ce référendum sur une éventuelle révision de la Constitution. Carole Valade.
Alors cette question, quand on la pose, tout le monde botte en touche. Aucun acte officiel n'a été posé dans ce sens, il est trop tôt pour se prononcer, dit-on. Mais dans les couloirs, la question du couplage des législatives avec un éventuel référendum est évoquée, pour des raisons d'économie notamment. Mais dans tous les cas, même si la CENI tient la date du 16 février, les résultats définitifs n'arriveront pas avant le 20 mars. Selon le chronogramme, ce qui est d'ailleurs assez court hein, pour ouvrir la première session parlementaire comme c'est prévu début avril. Mais pour ce qui est d'un éventuel référendum, on évoque aussi l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Je vous lis cet article, il dit « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. L'élection présidentielle, elle est prévue pour octobre 2020. Le référendum devrait donc avoir lieu au plus tard en avril. » Bref, en définitive, beaucoup anticipent un glissement du calendrier. Pour rappel, les dernières législatives, elles étaient initialement prévues en 2011. Elles ont été reportées plusieurs fois avant de se tenir fin 2013. Et elles ont débouché sur des mois de crise et des dizaines de morts.
Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans la Libre Antenne avec les auditeurs. Ibrahim, Carole Valade a-t-il répondu à vos questions ?
Oui, tout à fait, Juan. À Moulin fait, Juan. Bonne journée.
Bonne journée à vous, à Conakry, ainsi qu'à Carole Valade. 9h16 à Paris, vos questions et des questions sur la situation en Bolivie après la démission d'Evo Morales. Alidor nous a contacté de Kinshasa. Bonjour, Alidor.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous vos envoyés spéciaux dans différents pays.
Merci de vos encouragements. On vous écoute. Hein.
Merci. Après 3 semaines de sa réélection, le président Evo Morales a finalement cédé suite à la consultation de la rue. Du coup, je voudrais savoir, que justifie cette décision inattendue? Et peut-on parler d'un coup d'État comme le pensent certains présidents latino-américains et même le désormais président bolivien?
Oui, c'est vrai qu'Evo Morales, le président démissionnaire, se dit victime d'un coup d'État, une rhétorique qui est reprise en cœur par plusieurs présidents, président cubain, vénézuélien, le président élu argentin, même l'ex-président Lula a parlé de coup d'État. En France aussi, hein, on a une partie de la classe politique, le Parti communiste, la France insoumise, qui ont dénoncé, je les cite, la logique du coup d'État qui a conduit à la démission d'Evo Morales. Bonjour Christine Delfour.
Bonjour, oui, effectivement.
Alors je vous présente, même si vous intervenez régulièrement sur l'antenne de RFI, nos auditeurs peuvent vous connaître. Vous êtes professeur des universités en civilisation latino-américaine contemporaine à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Voilà donc pour les présentations. Peut-on parler de coup d'État ?
Je suis spécialiste de la Bolivie.
Et spécialiste de la Bolivie.
Écoutez, il y a la rhétorique. On utilise certains mots parfois de façon inappropriée. Si vous voulez, c'est une révolte, c'est une insurrection populaire. Si ça avait été un coup d'État dans le sens classique du coup d'État, les militaires seraient arrivés, se seraient installés par les présidentielles, auraient décidé de rompre tout le processus démocratique, etc. C'est pas le cas.
L'armée a quand même demandé à Evo Morales de démissionner.
Il lui a demandé de démissionner 15 jours, presque 3 semaines, après les élections, parce que la situation devenait intenable et qu'il y avait risque effectivement de problèmes et d'affrontements plus importants que ce qu'il y a eu. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé. Mais pour la première fois dans l'histoire de la Bolivie, parce qu'il faut, quand même le souligner, l'armée est constitutionnaliste. Alors que ce pays a été depuis plus une centaine d'années, a eu un nombre de coups d'État absolument invraisemblables. Donc pour une fois, il est constitutionnaliste, voilà, c'est bien.
Alors, il y a un autre aspect qui interpelle également. Le pays est désormais dirigé par Jeanine Agnès, qui était la deuxième vice-présidente du Sénat. Elle s'est proclamée présidente malgré l'absence de quorum au Parlement. Et là aussi, Evo Morales dénonce un coup d'État.
Oui, alors, il est prévu dans la Constitution que si les autorités du pouvoir législatif, du exécutif et législatif disparaissent ou qu'il y a un problème, bon après, c'est la deuxième présidente du Sénat qui
assure l'intérim.
Assure l'intérim. Bon, alors ça s'est fait effectivement d'une façon un peu particulière parce que les les députés, les sénateurs du MAS, qui sont majoritaires, je rappelle, dans les deux chambres, n'ont pas pu avoir accès de façon sécurisée au palais présidentiel. Donc, elle a été désignée sans quorum, effectivement. Mais le tribunal constitutionnel bolivien, semble-t-il, a donné son accord.
Ah, c'est pas semble-t-il, le tribunal constitutionnel a validé la prestation de serment, effectivement, de Jeannine Agnès. Alors, je sais que vous avez une conférence, donc on vous garde encore une petite minute, puisque vous devez nous quitter. Alidor avait une dernière question à vous poser. Alidor.
Oui, absolument. Soyez-en, en tout cas, est loin d'être fermé. Quels sont alors les scénarios possibles auxquels on peut assister?
Ah, les différents scénarios possibles. Déjà, on organise des élections, non? On pourrait passer des heures à imaginer l'avenir.
Oui, c'est compliqué. D'abord, théoriquement, des élections doivent avoir lieu dans 90 jours. Si on respecte donc la Constitution. Ce qui, semble-t-il, va être le cas. Néanmoins, il faut que les différents candidats, quels vont être les candidats? Et en particulier, quels vont être les candidats qui vont représenter le MAS, c'est le mouvement vers le socialisme, qui a quand même récupéré entre 35 et 40% des voix. Donc il y a un électorat qui est orphelin, on va dire, de candidats.
Oui, d'autant que le président démissionnaire, ne pourra pas être candidat.
Ah non, il ne pourra pas être candidat. Le peuple lui a fait comprendre et la classe politique aussi. Donc il ne peut pas être candidat. Alors que va-t-il se passer au sein du MAS quand l'on sait que le fonctionnement de ce parti, qui est tout à fait assez particulier, a fait que n'a émergé aucun leader politique et que Evo n'avait pas laissé l'espace pour faire émerger de nouveaux leaders. Et alors on va voir maintenant, puisqu'il n'est plus là. Se peut qu'au contraire, ce soit l'opportunité pour le MAS de faire émerger des gens nouveaux et donc de participer à un processus politique différent, plus serein, et que le projet de l'État plurinational, paradoxalement, en soit à renforcer. Oui. Bien évidemment, l'opposition qui aujourd'hui au pouvoir ne sera peut-être pas tout à fait d'accord, et il se peut que derrière, effectivement, il y ait des forces type États-Unis ou autres qui poussent bien évidemment l'opposition de Santa Cruz à consolider leur place maintenant au palais présidentiel.
On aura l'occasion, Christine Delfour, de vous recontacter sur RFI, spécialiste de la Bolivie. Merci d'avoir pris quelques minutes, d'être sortie de la conférence à laquelle vous participez en ce moment pour répondre à notre auditeur de la République démocratique du Congo. Sonia Rollet nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, spécialiste de la République démocratique du Congo. On a reçu des questions après la mort de celui qui était essentiellement connu sous le nom de général Jean-Michel Africa. Évariste nous appelle du Nigeria, il me semble. Bonjour Évariste.
Bonjour Monsieur Wangomer, bonjour à tous les auditeurs de RFI et les correspondants.
Vous êtes bien en Nigeria, au Nigeria?
Oui, je suis au Nigeria.
Au Nigeria. On vous écoute avec Sonia Rollet.
Ok. L'armée congolaise a annoncé la mort de Juvenal Moussa Bimana, le chef rebelle Hutu, commandant d'une fraction du RUT.
Oui.
Alors, j'ai deux préoccupations, Monsieur John. Ma première préoccupation est que dans quelles circonstances Juvenal Moussa Bimana a été tué?
Alors,
la deuxième est que quelles pourraient être les conséquences de sa mort sur le RUT, groupe dissident des FDLR?
Alors, Sonia Rollet, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont confirmé la mort de ce chef rebelle.
Alors, oui, c'est vrai que bon. En fait, beaucoup de gens l'ont confirmé, les autorités rwandaises également ont confirmé la mort donc de ce chef rebelle Hutu rwandais, donc qui était dans l'est du Congo depuis plus de 20 ans, et qui était effectivement chef de cette fraction des FDLR qui s'appelle le RUD, ou les ex-RUD d'ailleurs, parce qu'ils étaient plus tellement, en tout cas en activité, celui-là était considéré comme étant un peu retraité il y a encore quelques mois. Et puis, de plus en plus, on a entendu parler de ce groupe, et notamment dans la bouche des autorités rwandaises, puisqu'elles en avaient parlé à l'époque de l'attaque contre Kinigi, et où c'était une attaque sur le sol rwandais fait par des rebelles depuis la République démocratique du Congo, et où, disaient les autorités rwandaises, le RUD était impliqué. Donc cette cette attaque contre Jean-Michel Africa arrive après. Ce qu'il faut savoir, c'est que les versions un peu divergent hein, entre ce que disent l'armée, ce que dit l'armée congolaise, par exemple, qui dit ça a été d'intenses combats dans le dans le groupement de Binza, donc presque à la frontière avec l'Ouganda, qui ont conduit donc à la mort de ce chef. Ils ont expliqué qu'il y avait certains de ses cartes du corps qui avaient été tués. Or, selon les informations que l'on a de sources locales, ça a été un assassinat ciblé. Oui. C'est vrai qu'il a été attaqué alors qu'il se déplaçait avec ses gardes du corps et que c'était quelqu'un, Jean-Michel Africa, qui avait peur même de téléphoner puisqu'il y avait, selon le Roud, une vague d'assassinats contre les leaders de la rébellion qui était organisée par le Rwanda.
Il se croyait sous la menace d'une opération des armées congolaises et rwandaises et effectivement son entourage disait il évitait d'utiliser le téléphone. Est-ce que c'est un coup dur pour le Roud, pour ce groupe rebelle?
Alors le Roud, déjà, c'est quelque chose qui existait un peu comme tous ces groupes rebelles rwandais, ils étaient tous un peu fragmentés et depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec le Roud, par exemple, l'aile politique et l'aile militaire ne sont plus ensemble. Dans l'aile militaire, on avait Jean-Michel Africa, dont certains disent qu'il était un peu écarté depuis juin, et d'autres qui n'étaient pas forcément sur la même ligne, notamment sur les histoires d'attaque contre le Rwanda. C'est une opposition politico-militaire qui a été largement en fait éprouvée ces dernières semaines. On se souvient de la mort de Mouda Chumura, par exemple, du général Mouda Chumura, qui était quand même le chef militaire des FDLR.
C'était il y a deux mois.
Une figure qui a eu d'autres en fait attaques contre ces groupes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de frontières en fait entre ces différents groupes rebelles rwandais. On avait à une époque, c'est vrai qu'entre les FOCA, FDLR FOCA et les Roud, on sentait qu'ils ne s'entendaient pas du tout. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que face, disons, à l'adversité des opérations qui sont menées contre ces forces, effectivement, on voit beaucoup plus de liens et de coordination.
L'analyse de Sonia Rollet. Merci Sonia, bonne journée. On remercie évidemment Évariste qui nous appelait de Zaria. C'est à 250 km au nord d'Abuja, au Nigeria. Une question sport pour terminer cette première partie. Peter, bonjour.
Bonjour Anne.
Bienvenue. Des questions sur Raymond Poulidor.
Oui, effectivement, c'est avec tristesse que j'ai appris sur RFI la mort de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans. Et voici ma question. Comment expliquer la popularité de cet éternel second, lui qui n'a jamais remporté un seul Tour de France?
Ouais, Poupou, comme il était surnommé, était vraiment un monument national. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Du service des sports de RFI, l'éternel second, c'est vrai qu'il n'a jamais porté le maillot jaune, il n'a jamais gagné le Tour de France et pourtant les Français l'adoraient.
Ah oui, c'est un petit paradoxe en sport. Souvent, quand on parle des champions, on parle beaucoup de leur palmarès. Lui, il a réussi à être un grand champion sans jamais gagner le Tour de France, puisqu'il a quand même plus de 200 victoires. Il a gagné le Tour d'Espagne, il a gagné Paris-Nice, il a gagné la plupart des classiques.
Mais de Milan-San Remo, par exemple.
Oui, voilà. Les grandes classiques qui parlent beaucoup au cyclisme. Mais c'est vrai qu'il a jamais gagné le Tour de France. Et il termine 8 fois sur le podium et ça faisait partie de sa légende.
8 fois deuxième. Oui,
non, 3 fois deuxième, 5 fois troisième, 8 fois sur le podium en
d'accord,
tout cas.
D'accord, en tout.
Et c'est ce qu'il faisait partie de sa poupoula. Comme on a dit, voilà son petit surnom, c'était donc Poupou, son nom Poulidor. Mais ce qui l'a rendu vraiment très populaire, c'est sa sympathie, sa bonhomie et puis sa philosophie de vie, puisqu'il n'était pas du tout fataliste finalement. Il a beaucoup joué de malchance, il y a eu des abandons, il y a eu des blessures. Et à chaque fois, il disait, en fait, ça fait partie du vélo, mais moi, le vélo m'a beaucoup plus apporté que je n'ai perdu finalement. Et même si j'ai toujours fini deuxième, ça a donné lieu au moins à des duels mythiques. Et on pense à Jacques Anquetil qui était.
Son grand rival
dans les années 60. Puis 10 ans plus tard, c'était face à Eddy Merckx. Mais ce qui a aussi expliqué son succès, c'est sa longévité à Poulidor. Il est resté coureur pendant 18 ans. Donc ça a été,
il a pris sa retraite, il avait 42, 43 ans.
Il avait 40 ans pile en 76, c'est ça. Mais il a vraiment traversé les âges et il a résonné. En tout cas, il a accompagné les Français un petit peu comme un feuilleton. Tous les ans, on retrouvait Poulidor. Est-ce que cette année, est-ce qu'il gagnera? Bon, finalement, il n'a jamais gagné. Mais aussi, pourquoi une telle popularité? C'est aussi qu'il représentait une certaine France au moment des Trente Glorieuses. Lui, il était vraiment il venait d'un monde paysan et c'était un petit peu le représentant des perdants, des malchanceux, un petit peu de la France paysanne et rurale qui avait du fait et cause pour lui. Et donc, c'était vraiment le chouchou.
Ouais, et en tout cas, il y a cette anecdote qui est très émouvante. Jacques Anquetil, donc son rival, grand rival, et quelques jours avant de mourir, avant que Jacques Anquetil ne meure, Poulidor va lui rendre visite et Anquetil lui dit « Ah Raymond, tu vas encore arriver deuxième au paradis ». Voilà, belle histoire. Merci Martin Guez, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Et merci à Peter qui nous appelait de la région parisienne.